le magazine des Nations Unies.
Visite de travail de Jean-Pierre Lacroix en RDC, le secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix a notamment eu des entretiens avec les acteurs politiques et de la société civile du pays. Un condensé de son séjour dans un instant. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est à sa troisième édition. En RDC, la protection et la promotion des droits des albinos au cœur des diverses activités organisées notamment dans la capitale. Le point, c'est dans cette édition. Il faut désormais s'habituer au numéro 49 11 11, c'est en tout cas le numéro vert que le Programme alimentaire mondial, PAM, met à la disposition des bénéficiaires et non bénéficiaires de son assistance alimentaire. Son lancement a eu lieu à Kinshasa. Enfin, Ocha la recherche des fonds additionnels pour la mise en œuvre du plan humanitaire 2017 en RDC. Une mission s'est rendue récemment en Europe pour sensibiliser donateurs et bailleurs de fonds sur la crise humanitaire dans ce pays et mener ainsi un plaidoyer pour la mobilisation des fonds. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a effectué cette semaine une visite de travail de 5 jours en RDC, des entretiens avec les acteurs politiques et de la société civile à Kinshasa, ainsi que la visite au Kasaï central et au Nord Kivu ont été notamment au menu de son agenda. Résumé du séjour de l'hôte de la RDC avec Honoré Missinga Kalala.
Kinshasa, Kananga, Goma, Kinshasa, sur le triangle du périple que Jean-Pierre Lacroix a effectué pendant ses 5 jours de présence en République démocratique du Congo, c'était son premier séjour en tant que chef du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Dans la capitale congolaise où il a été accueilli à son arrivée par le chef de la MONUSCO, Mamane Sidiku, Jean-Pierre Lacroix a rencontré le même jour le premier ministre Bruno Tshibala. Le lendemain, il s'est entretenu au quartier général de la MONUSCO avec les acteurs politiques toutes tendances confondues et la société civile autour de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ensuite, c'était au tour de Kananga, chef lieu de la province du Kasaï central en proie à la crise Kamuina-Nsapu depuis août 2016 et de Goma au Kivu de recevoir mercredi et jeudi l'hôte onusien de la RDC. Et c'est encore par Kinshasa que Jean-Pierre Lacroix a bouclé sa mission. Une mission à l'issue de laquelle il a souligné l'importance sur le plan politique de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, alors que sur le plan sécuritaire du pays, il a réaffirmé la détermination de l'ONU à poursuivre ses efforts pour la recherche de la stabilité et la paix en RDC.
Le 13 juin est consacré Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. À Kinshasa, le ministre des Affaires sociales a organisé la célébration de cette journée à laquelle plusieurs associations de promotion et de protection des droits des albinos ont participé et dans laquelle la MONUSCO et les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme ont été impliqués. C'est encore Honoré Missinga Kalala qui a assisté à cette cérémonie.
C'est au centre culturel du collège Boboto à Kinshasa que la journée internationale dédiée aux albinos a eu lieu. Une cérémonie organisée par le ministre des Affaires sociales en collaboration avec sa collègue des droits humains. Le ministre Serifouli des Affaires sociales explique le but de cette journée.
Le but de cette journée est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre les rejets qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés.
L'un des moments forts de la manifestation a été la présentation de plusieurs dizaines d'enfants albinos abandonnés et orphelins. La ministre des Droits humains a eu pour sa part des mots d'encouragement à l'endroit de celles qui s'occupent de ces enfants.
Je veux encourager Madame Pauline qui dirige l'orphelinat qui s'occupe des albinos. C'est une femme courage, avec un grand cœur que je soutiens et que je soutiendrai tant que je le pourrai.
Un des acteurs de la journée, albinos lui-même, le catcheur Mwimba Texas.
Aujourd'hui, il y a plusieurs ONG des albinos, ça me fait du bien. Et vous de la presse, moi je vous respecte beaucoup. En 2014, notre aîné Salif qui était venu ici, venu Mwimba Texas, ça me fait du bien parce que la presse est derrière vous. Et si moi je n'étais pas en contact avec la presse, je ne pouvais même pas avoir une idée que ce catcheur albinos Mwimba Texas est un félin technicien. Et voilà ce qu'il ne cesse de faire pour ses frères et sœurs albinos.
Tout le mois de juin est dédié aux albinos, a laissé entendre par ailleurs le ministre Serifouli. Dans ce cadre, il est prévu une cérémonie de prise en charge des mariages civils d'une trentaine de couples d'albinos.
Nous reviendrons sur cette cette journée dans la rubrique Décryptage avec l'entretien de la directrice générale du Fonds national de promotion et de services sociaux. Autre actualité, le comité des femmes UNPOL de la MONUSCO, en collaboration avec la police nationale et le ministère des Affaires sociales, a organisé mercredi dernier une journée festive en faveur de 40 enfants de la rue et orphelins du projet Enfants de la rue de la division urbaine des Affaires sociales. C'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'enfant africain. Cadre choisi, le parc Kadima's Pride of Africa au village Kimpoko, c'est à quelques 110 km dans l'est de la capitale. Jean-Pierre Elali Coco a suivi pour vous cet événement.
Ce sont des remerciements de Meshak, 9 ans. Il fait partie d'une quarantaine d'enfants de la rue et d'orphelins qui ont fait le déplacement du parc Kadima's Pride of Africa à Kimpoko pour fêter de bonne manière la journée internationale de l'enfant africain. Une initiative du comité des femmes UNPOL de la MONUSCO. L'UNPOL Wiem Gérard, vice-présidente du comité des femmes UNPOL, donne le sens de la manifestation.
On va partager festivités. C'est la raison pour laquelle le comité des femmes des APU sont organisés ensemble pour accompagner ces enfants au zoo de Kadima Pride of Africa pour partager leur joie.
L'UNPOL Seynabou Diouf du Team Leader Task Force donne libre cours à son cœur de maman.
On leur a offert le cœur, on a ouvert nos bras, on les a embrassés et de façon sincère. On a laissé nos enfants quelque part dans le monde. C'est pour leur amener le sourire, c'est pour leur amener notre support.
Les femmes UNPOL offrent des cadeaux aux enfants, joie de toute nature, biscuits, un repas chaud et des activités récréatives. Enfin, tout se termine avec une randonnée dans ce parc aménagé de 130 hectares. Les enfants visitent des zèbres, des autruches et des buffles que certains ont découverts pour la toute première fois.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Comme signalé plus haut, Madame Alice Mirimo est directrice générale du Fonds national de promotion et des services sociaux, FNPSS, un service public. Et le FNPSS a été impliqué dans l'organisation des manifestations de la journée dédiée aux albinos, en collaboration notamment avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est donc en marge de cet événement que Madame Mirimo a répondu à Honoré Missinga Kalala.
Madame Alice Mirimo, bonjour.
Bonjour.
Madame, le Fonds national de promotion et de services social a activement participé à la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. C'était le 13 juin 2016. Première question, madame. Comment définissez-vous un albinos?
Un albinos, c'est une personne atteinte d'albinisme qui est une anomalie congénitale qui consiste à la diminution ou même l'absence de la partie colorante de la peau qu'on appelle mélanine et qui touche aussi aux yeux.
Alors, madame, donc c'était une journée consacrée à la promotion des droits des albinos. Comment avez-vous jugé l'organisation des activités? On a vu la présence de plusieurs ministres, des collaborateurs du chef de l'État ainsi que la présence des députés et des sénateurs. Comment vous avez jugé l'organisation de cette activité?
C'est une activité qui a totalement réussi. Le Fonds national de promotion des services sociaux a appuyé en collaboration avec la MONUSCO et les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme. Et l'activité a été organisée par Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires sociales en collaboration avec sa collègue de droits humains. Et il y a eu effectivement beaucoup de ministres qui sont venus. C'est une activité qui a touché, qui touche particulièrement le gouvernement. Le gouvernement est dans une démarche de faire des activités à impact visible et immédiat pour que le social de la population puisse être vécu réellement dans leur vie. Et donc, c'est dans ce sens-là que vous avez vu cette grande mobilisation. J'aimerais aussi dire à la population que nous sommes dans une démarche de mettre en œuvre toutes les actions qui se trouvent dans le plan stratégique et financier du Fonds national des promotions et des services sociaux. Vous vous rappelez qu'en 2012, le gouvernement avait adopté ce plan comme étant le plan social pour notre peuple. Lors de la table ronde des États généraux sur la situation des personnes handicapées en juin 2016. Les personnes handicapées, y compris les albinos, ont été associées à toutes les étapes et des consultations et des enquêtes pour connaître leurs besoins réels. Et donc aujourd'hui, j'ai la joie de dire à notre peuple que le gouvernement a un plan stratégique quinquennal de protection et de promotion des personnes handicapées dans lequel se trouvent beaucoup de projets pour la prise en charge de nos compatriotes albinos. Nous, au niveau du fonds, nous allons nous focaliser particulièrement sur les questions de leur santé et de leur peau. Nous sommes en train de nous activer pour qu'ils aient même des exonérations des produits qui les concernent. Parce que nous devons tous travailler ensemble, main dans la main, pour que nos compatriotes puissent vivre aussi dans le bien-être.
Madame, en dehors de la journée du 13 juin, est-ce qu'il y a d'autres activités, d'autres actions par rapport à la promotion des droits des albinos?
Oui, Son Excellence l'a annoncé qu'il y a deux phases des activités prévues durant tous les mois. Je signale aussi que tout se passe sous le haut patronat du chef de l'État qui lui-même personnellement est très engagé maintenant sur les questions de personnes handicapées, particulièrement pour les albinos. Maintenant qu'il y a cette cérémonie officielle, nous allons programmer d'autres activités de sensibilisation. Nous préparons par exemple la commémoration du mariage civil d'au moins 30 couples des albinos. Vous allez voir au cours de ces moments plusieurs activités comme le défilé des modes, les émissions radio-télé comme celle-ci. Il y aura encore des scénettes, il y a des catcheurs, hein, albinos, si vous le connaissez, je crois. Il y a Wimba Texas et Police Belle. Il y en a d'autres qui viendront du Bas-Congo et partout. Et donc, ça sera vraiment des activités. Et nous aimerions que vous soyez là pour que la population vive ça en live. Et donc, vous allez constater que, au fait, ce qui nous motive, c'est que nous avons découvert que parmi nos compatriotes albinos, il y a beaucoup de talents. Il y a même des professeurs qu'on a découverts, des avocats, des grandes dames qui sont dans les commerces et tout. Donc, pour nous, nous sommes tous des Congolais et il n'y a pas de discrimination liée à la peau parce que chacun de nous a son intelligence, a ses talents. Il est question juste que nous puissions leur donner l'égalité des chances pour qu'ensemble nous puissions participer à la construction du pays.
Oui, pour le moment nous parlons d'abord de nos frères et sœurs albinos. D'où vous viennent les moyens pour leur prise en charge? Je parle du fond.
Jusque-là, nous n'avons pas assez de moyens. Mais nous avons toutes les potentialités possibles pour les avoir. Parce que le décret qui a été mis à jour en 2013 par le gouvernement a mis en place au sein du fonds la Caisse de solidarité nationale. Et cette caisse doit collecter tous les fonds sociaux qui sont au niveau des sociétés, et là ce sont des fonds de responsabilité sociale des entreprises, les entreprises minières, pétrolières, toutes les entreprises qui travaillent chez nous doivent contribuer pour les sociales de Congolais. Nous devons avoir des fonds provenant des loteries. Quand nous jouons à la loterie, quelque chose doit rentrer dans la caisse du fonds. En fait, c'est des stratégies qui ont existé depuis même l'époque coloniale, parce que ce fonds, on appelait ça fonds du bien-être indigène, c'est ce fonds qui a fait tout ce que vous connaissez comme infrastructure sociale dans ce pays, en termes d'hôpitaux, d'écoles publiques et autres. Et donc, la même stratégie est revenue, et en pleine force, parce que le mode de gouvernance a été actualisé, et nous allons nous appuyer sur la technologie pour rassurer davantage les contributeurs, parce que ceux qui donnent ont aussi besoin de savoir qu'il y aura des résultats. Et je peux me dire qu'il y aura réellement des résultats. Parce qu'il y a quand même un plus, c'est que les bénéficiaires sont associés. Pour les cas précis de personnes albinos, nous avons fait tout ce que je suis en train de vous dire ici avec leurs associations. Ils sont regroupés maintenant dans une fédération des albinos du Congo. Et il y a beaucoup d'autres associations qui sont dans les provinces. Vous allez voir que la célébration d'hier s'est passée dans plusieurs provinces, hein, dans le sud, le nord, la province orientale. Et donc, c'est des éléments pour dire que nous n'allons pas avancer seuls. Nous voulons avancer ensemble en nous tenant main dans la main.
Ensemble, mais aussi avec des partenaires comme la MONUSCO, comme le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Évidemment. Et j'en appelle à d'autres partenaires aussi des régions de la MONUSCO. J'étais déjà contente hier. Il y avait beaucoup de partenaires. J'ai vu beaucoup d'ambassadeurs. J'ai vu aussi d'autres partenaires qui étaient là. C'est déjà une preuve d'intérêt. Et je souhaite vraiment que ça puisse se conclure avec des partenariats beaucoup plus effectifs. Parce qu'au fait, l'action sociale, c'est l'action de tout le monde. C'est pourquoi, d'ailleurs, au niveau du fonds, notre devise, c'est le social dans la solidarité. Et la solidarité, ça signifie, c'est une affaire de tous.
Une affaire de tous, c'est votre dernier message ou alors vous en avez un par rapport à la journée des albinos ou par rapport aux activités du fonds?
J'aimerais juste demander à tout le monde, donc aux partenaires, au gouvernement, à toute personne qui sent qu'il peut apporter de l'aide aux pauvres, aux vulnérables, de faire confiance au Fonds national de promotion et de services sociaux, de nous tenir main dans la main et d'agir ensemble. Parce que quand vous voyez notre plan opérationnel et notre plan stratégique, il est très ambitieux. Pour nous, nous disons, d'ici avant la fin de l'année, il faut que la population sente qu'il y a un fonds qui veille à ce qu'un jour le bien-être social soit une réalité. Mais ça ne peut pas arriver si nous ne tenons pas main dans la main. C'est ça l'essence de notre devise, le social dans la solidarité.
Madame Alice Mirimou, merci.
C'est moi qui vous remercie.
En plus bref, d'abord cette nouvelle de la Cour pénale internationale, CPI. Début à partir du mercredi 14 juin du témoignage de Bosco Ntaganda devant les juges. Cela à la demande de son avocat. Ce témoignage devra durer plusieurs semaines. Pour rappel, monsieur Bosco Ntaganda doit répondre de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité qu'il aurait commis dans la province de l'Ituri entre 2002 et 2003. Le 12 juin est consacré Journée mondiale contre le travail des enfants. Cette année, l'Organisation internationale du travail, OIT, a attiré l'attention sur le sort tragique des enfants confrontés à des conflits ou à des catastrophes naturelles. Selon l'OIT, environ 168 millions d'enfants dans le monde sont encore contraints à travailler, dont 85 millions effectuent des travaux dangereux. Enfin, lutte contre les VIH-SIDA, le maire de Goma au Nord Kivu a signé le 9 juin la déclaration de Paris dans son volet VIH. L'objectif de cette déclaration étant de permettre à tous de vivre en bonne santé, de promouvoir le bien-être avec un accent sur la nécessité de mettre fin d'ici 2030 au virus du VIH-SIDA. À travers son adhésion à la déclaration de Paris, le maire de Goma s'engage à établir et à intensifier les stratégies urbaines de lutte contre le VIH.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous le disons dans le sommaire, le chef de bureau de OCHA a effectué récemment une mission de plaidoyer en Europe avec comme principal objectif obtenir des bailleurs des moyens financiers additionnels pour la mise en œuvre du plan humanitaire 2017 en RDC. UNMAG revient sur cette visite ainsi que sur la mission effectuée au Kasaï et au Tanganyika par John Ging, chef des opérations à OCHA basé à New York. Yvon Edoumou, chargé de communication et de plaidoyer à OCHA, s'entretient sur le sujet avec Jean-Pierre Elali Coco.
Yvon Edoumou, bonjour.
Bonjour.
Le coordonnateur humanitaire a fait récemment une tournée en Europe pour un plaidoyer pour une assistance humanitaire dans les Kasaï. Alors, quels sont les pays qu'il a visités et quels en sont les résultats?
C'est M. Rein Paulsen, le chef de bureau de OCHA, qui a été en tournée dans un certain nombre de capitales européennes durant le mois d'avril pour effectivement avoir un peu plus de soutien financier de nos partenaires, de nos donateurs, non seulement sur la crise du Kasaï, mais aussi sur la grande crise, j'allais dire, qui touche le Congo depuis plusieurs années. Donc c'était une mission à deux volets. Oui, mettre l'accent sur le Kasaï, les nouveaux besoins qui sont nés de cette crise dans la région de Kasaï, mais aussi rappeler à nos interlocuteurs qu'il ne fallait pas oublier la crise plus traditionnelle qui existe depuis plusieurs années, notamment dans les Kivu, le Nord Kivu, le Sud Kivu, en Ituri, et aussi dans le Tanganyika depuis quelques temps maintenant.
Quels sont les pays qu'il a visités?
Il a été en Belgique, en Norvège et en Suède pour effectivement voir ces donateurs-là. Et c'était une mission d'information, de plaidoyer, mais aussi de sollicitation de moyens financiers additionnels dans la mesure du possible près de ces donateurs. Jusqu'à présent, actuellement, la situation financière du plan d'action que nous avons lancé en 2017 et notamment celle du plan du Kasaï n'ont pas encore obtenu les moyens financiers que nous souhaitons. Actuellement, le plan d'action humanitaire 2017 est financé à peu près 20%, ce qui est en dessous de la moyenne des années précédentes. Et aussi pour le Kasaï, nous sommes toujours à la recherche de fonds additionnels puisque nous avons lancé un appel de fonds de 64,5 millions en début du mois d'avril pour le Kasaï qui n'a pas encore reçu les montants que nous désirons afin de pouvoir faire le travail que nous voulons faire. Alors, que cela n'en tienne, le travail est en train d'être fait avec les acteurs onusiens et les ONG qui sont ici dans le pays avec les moyens que nous avons en attendant que de nouveaux financements puissent arriver.
Oui, un plaidoyer qui a été fait à ce niveau. Voilà, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y a eu des promesses fermes pour essayer tant soit peu d'aider le plan humanitaire qui est en exécution en République démocratique du Congo pour OCHA?
Bon, je pense que il n'est pas approprié de parler de montants. Les montants seront sus lorsque se matérialise sur le travail que nous faisons. Donc voilà, comme vous savez, quand on va faire un plaidoyer pour des ressources additionnelles, ce n'est pas du tic au tac. Donc
il y a des promesses.
Il y a toujours des promesses. Il y a toujours des promesses. On verra ce que ça va donner.
Oui. Pour terminer, il y a une autre visite qui a été conduite par M. John Ging, chef des opérations OCHA basé à New York, ici en République démocratique du Congo. Il s'est rendu dans les Kasaï et aussi dans les Tanganyika. Est-ce que très brièvement, on peut en savoir un peu l'objectif de cette visite et de cette mission?
Mais cette mission, une fois de plus, visait à assurer que les projecteurs du monde entier qui peuvent être braquer sur d'autres crises dans des pays proches ou lointains, que ces projecteurs-là n'oublient pas que la RDC demeure une des crises les plus aiguës au monde, et cela depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, avec la crise du Kasaï, ce million de personnes qui sont déplacées, il y a aujourd'hui 3,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC, ce qui fait du pays, malheureusement, le pays africain le plus touché par ce phénomène. Ce n'est pas quelque chose dont on est fier. Donc cette mission visait à remobiliser, à rappeler, à plaider pour que la communauté internationale puisse continuer à soutenir le travail qui est abattu ici par les agences onusiennes et par les ONG nationales et internationales, tant pour le Kasaï que, une fois de plus, pour ces foyers d'opération qui ont été, qui sont toujours, le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et le Tanganyika. Donc cette mission qui a eu lieu la semaine dernière, le 8 et 9, assez brève, assez rapide, mais elle a permis à M. Nguing de rencontrer les autorités congolaises au niveau de Kinshasa, ainsi que les autorités provinciales à Goma, à Kalemie et les acteurs humanitaires à Kananga, afin d'abord de les écouter et d'entendre de leur part quel est leur aperçu, leur lecture de la situation humanitaire actuellement, mais lui aussi de partager aussi son expérience avec une vision venant du ciel sur comment est-ce que les choses sont perçues depuis New York, et de voir aussi comment effectivement apporter des solutions à la crise, autant financière que dans des discussions beaucoup plus techniques, beaucoup plus programmatiques.
Yvonne Edoumo, merci de nous avoir accordé cette interview.
Merci Jean-Pierre.
Le PAM, Programme Alimentaire Mondial, a lancé officiellement une ligne verte, accessible, libre et gratuite au service des bénéficiaires et non bénéficiaires de son assistance humanitaire, et ce, à travers tout le pays. L'annonce a été faite vendredi 8 juin au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Jean-Pierre Elali Koko a assisté au lancement de ce projet. Suivez son reportage.
Il faudra désormais s'habituer au 49 11 11. C'est le numéro vert que le Programme Alimentaire Mondial, le PAM, met gratuitement à la disposition des bénéficiaires et non bénéficiaires de son assistance alimentaire. Olosib, chargé d'analyse, vulnérabilité, suivi et évaluation au PAM, explique le bien fondé du projet et le bénéfice qu'il procure.
Peu importe où vous vous trouvez, si vous êtes confronté à des problèmes de protection, si vous êtes confronté à des problèmes de sécurité en lien avec l'assistance alimentaire du PAM, si vous avez besoin de donner une alerte sur un problème qui vient de se passer dans votre communauté, si vous avez besoin de donner votre avis sur l'assistance alimentaire que le PAM est en train de donner dans le pays, vous pouvez appeler cette ligne pour pouvoir vous exprimer. Vous aurez toujours quelqu'un au bout de la ligne pour prendre l'appel.
Le projet est rendu possible grâce au partenariat que le PAM a établi avec Congo Call Center, une entreprise de téléphonie et partenaire des sociétés de télécommunications. Madame Annie Touluka Samouna, directrice du Congo Call Center, rappelle le rôle de son entreprise dans ce partenariat.
Nous travaillons avec Vodacom, nous travaillons avec Orange, Airtel. Nous avons des lignes dédiées pour recevoir les appels arrivant sur le 49 11 11. Ces appels qui arrivent chez nous, parce que les serveurs sont logés chez nous, sont facturés, que l'appelant ne paye pas. Mais c'est le PAM qui prend en charge ce coût-là. Une fois que nous recevons les factures de nos partenaires, nous payons cette communication-là. Donc on a la partie communication et il y a les frais de tout ce qui est infrastructure.
Le coût du projet est de 80 000 $ américains par mois.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Suivez cette question relative à la collaboration entre la section protection de l'enfant de la MONUSCO et la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA. Elle était posée à partir de Goma au cours de la conférence de presse des Nations Unies et la réponse du porte-parole ad intérim de la MONUSCO.
C'est Benjamin Mouloba pour la radio Blessing FM. Je voulais poser ma question au porte-parole de la MONUSCO. Quels sont les résultats qui poussent la section de protection de l'enfant de la MONUSCO d'être satisfait de la collaboration entre la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO et la FECOFA dans la lutte contre l'utilisation des enfants dans des groupes armés?
Vous savez très bien que ici, à cette même conférence, nous avons officiellement lancé la collaboration que nous avions avec la FECOFA dans le domaine de l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. Donc, en fait, c'est une continuation de notre opération qui a été lancée depuis. Et nous essayons de prolonger nos efforts, de mener des activités, de faire en sorte que ce que nous avons pris ensemble comme engagement ici avec la FECOFA, que nous puissions poser des actes concrets de manière à sensibiliser les groupes armés à ne plus enrôler les enfants. Parce que la place des enfants, c'est dans les écoles, c'est pas dans les groupes armés. Donc nous sommes satisfaits de cette collaboration. C'est ce qui a motivé cette activité-là que nous avons donnée dans le verbatim, c'est-à-dire un engagement solennel avec les léopards de façon à sensibiliser davantage ces groupes armés, à sensibiliser davantage les populations pour qu'ensemble nous puissions unir nos efforts et prévenir l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. Donc nous sommes satisfaits et c'est ça notre motivation. Et nous allons continuer à mener des activités, à collaborer intensivement avec la FECOFA pour engranger plus de victoires.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Alazi Mputu Innocent. Père de famille, marié à Madame Lidine Seka Kimanga, avec qui nous avons 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. J'ai commencé mes études primaires à l'EP1 Lemba Nord, qu'on appelle communément Saint-Augustin à Lemba, ici à Kinshasa. Après mes études primaires, je suis allé faire les cycles d'orientation au collège Saint-Raphaël à Limété. Et je suis allé au collège Sainte-Anne à la Gombe où j'ai abordé les humanités littéraires. Bien entendu, à l'époque on était un peu bouillant. Chez les prêtres, on n'a pas pu terminer les études. Là, nous sommes allés les finir à l'Institut Lumumba où j'ai décroché mon diplôme d'État. Et dès là, je suis allé entamer mes études universitaires à l'Université catholique du Congo. Et là, j'ai fait la faculté de sciences et techniques de développement. Et en même temps que j'ai terminé la licence à la faculté catholique, j'ai abordé aussi les études d'agrégation d'enseignement. Et donc, je suis licencié agrégé en économie et développement. Alors, j'ai embrassé la carrière professionnelle jusqu'à devenir là où je suis, c'est-à-dire à la MONUSCO. Et à la MONUSCO, présentement, je suis assistant aux ressources humaines, poste que j'occupe depuis novembre 2014. Un poste qui me plaît beaucoup. Être assistant des ressources humaines, ça me plaît parce que je suis tout le jour en interface avec les gens. Mais en gros, le travail que nous faisons consiste en l'administration des staffs nationaux. Avant d'arriver à la MONUSCO, j'ai eu aussi à faire un parcours. C'est-à-dire que, aussitôt terminé l'université, j'ai été engagé à la société congolaise de pétrole qu'on appelait communément Elf Oil RDC, qui est devenue aujourd'hui le groupe Total. Dans Elf, là, j'ai passé 10 ans d'expérience. Oui, compte tenu de ce que nous faisons ici, on a passé de temps de repos, hein. Mais le peu de temps que nous avons, j'aime le consacrer à la famille, je regarde bien beaucoup la télé et j'aime beaucoup la musique, le sport, le football. Alors, en tant qu'innocent individu, j'aime bien manger, hein, j'aime bien manger, j'ai mes plats préférés. Et moi, je suis un riverain, j'aime bien manger la tortue, c'est mon plat préféré, le crocodile, le poisson frais. Et surtout dans la formule liboké, c'est encore plus intéressant quand c'est accompagné de l'ituma, de la chikwang, c'est vraiment magnifique. Mes perspectives d'avenir, je totalise aujourd'hui 20 ans d'expérience, 10 ans dans les secteurs privés, 10 ans dans le système des Nations Unies, j'ai emmagasiné beaucoup de choses et dans l'avenir, je me vois dans le casque d'un consultant et rassembler d'autres experts. Hein. Nous sommes nombreux ici à la MONUSCO, on peut s'organiser et montrer un centre d'expertise pour essayer d'apporter quelque chose aux jeunes cadres qui terminent l'université, aux cadres aussi d'entreprises, pour leur apporter les best practices hein, qu'on a, afin de leur permettre de résoudre leurs problèmes. Voilà un peu en gros ce que je peux dire.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un rendez-vous important à noter dans votre calepin. On vous rappelle que ce 20 juin, c'est la journée mondiale du réfugié. Voilà, c'est déjà la fin du magazine des Nations Unies. Merci de votre attention. Je suis Tina Salama. C'est toujours un plaisir pour moi de vous le présenter. À la mise en onde, Alain Goy, à la coordination de ce magazine, Jean-Pierre et Lali Coco, au reportage et à la réalisation, Honoré Missenga. Et puis, ce magazine a été supervisé par Martin Sebujangwe. Merci, bon dimanche chez vous. À bientôt. Ciao.